Et c'est l'heure du journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Le spleen des cinémas, parmi les premiers à devoir instaurer le pass sanitaire, ils voient leur fréquentation s'effondrer depuis quelques jours. Les professionnels s'inquiètent pour leurs finances, déjà mises à l'épreuve depuis un an et demi. Les cinéphiles reviendront bien un jour dans les salles obscures, mais il va falloir qu'ils se vaccinent. Le gouvernement espère 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois d'août. Dans les vaccinodromes, on se prépare à piquer à tour de bras ces prochaines semaines. Et puis à suivre l'hommage au père Hamel, 5 ans après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, la première gouverneure générale autochtone de l'histoire du Canada. Et puis les Berruriers Noirs donnent leurs archives à la BNF. Ça ne va pas intéresser que les fans de l'univers punk. Rendez-vous tout à l'heure.
Et pour premier invité ce matin, on a l'immense plaisir de recevoir Benoît Poulvorde, absolument magistral dans le dernier film de Jean-Pierre Améris, Profession du père. Rendez-vous tout à l'heure avec cet acteur touchant et populaire à 7h50.
France Inter.
Une première semaine sous passe sanitaire compliquée pour les cinémas, donc.
Selon l'organisme de mesure de la fréquentation des salles obscures, les ventes de places s'effondraient de 70% mercredi dernier pour le premier jour avec passe sanitaire. La situation inquiète les patrons de cinéma. Ils demandent un plan d'aide économique. Pas de chiffres encore de la fréquentation pour ce week-end, mais on ne semblait toujours pas se bousculer pour aller voir des films. Rémi Brancato l'a constaté dans un cinéma du 17e arrondissement de Paris.
La météo est maussade, parfaite pour se faire une toile, et pourtant il n'y a quasiment personne au guichet. Il faut dire qu'il y a une nouvelle exigence à l'entrée.
Je veux aussi scanner votre passe sanitaire, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, madame.
Pierre a ses 2 doses de vaccin, mais depuis moins de 7 jours, pas encore de passe sanitaire.
On est passé faire des tests antigéniques pour avoir la possibilité d'aller voir ce film.
Dans certaines salles du cinéma de 90 places, Valentine ne compte que 7 spectateurs.
On a eu pas mal de gens qui ont été obligés de faire demi-tour.
Depuis mercredi, la fréquentation a baissé de 50 à 60%. Adèle Tac-Tac, en charge de l'espace restauration, a dû refuser des clients.
Beaucoup n'avaient pas compris que c'était applicable en cinéma. Devoir avoir un PCR ou un antigénique avant d'aller au cinéma est beaucoup trop contraignant pour que les gens aient envie de passer le cap.
Après des mois de fermeture, c'est un nouveau coup d'arrêt, se désole Mathieu Guillou, le directeur adjoint.
Pendant les périodes de couvre-feu, on avait le droit au chômage partiel. On peut estimer que le pass sanitaire a le même effet au final. Un retour au chômage partiel pourrait être préconisé.
Ce week-end, 2 à 3 salariés sur 7 auraient pu en profiter, selon lui. Et Adèle craint que la fréquentation mette du temps à redémarrer.
Un élargissement de la vaccination, oui, ça pourra faire redémarrer l'activité, mais ça ne peut pas se faire en 3 jours.
Pour elle, le retour à la normale, ce sera sans doute à l'automne. D'ici là, les exploitants craignent que des sorties de films grand public soient à nouveau reportées.
Reportage de Rémi Brancato. Le pass sanitaire imposé au cinéma est, vous le savez, appelé à être étendu à d'autres lieux. Le projet de loi le prévoyant est adopté par le Parlement ce matin. Adoption après des compromis entre majorité et opposition. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h.
Et ce projet de loi a un objectif clair, inciter à la vaccination.
Ce soir, normalement, 40 millions de Français ont reçu au moins une injection. Le gouvernement espère arriver à 50 millions à la fin du mois d'août. Depuis les annonces du président le 12 juillet dernier, la cadence s'accélère. Ça se ressent dans les grands centres de vaccination, comme le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. 200 personnes vont rester mobilisées jusqu'à la fin des vacances. De nouveaux professionnels de santé rapidement formés pour vacciner et envoyés en renfort pour assurer 400 piqûres par jour. Cécilia Arbonin.
Vous faites tous les 4 vaccinés ?
Alors que la file d'attente des créneaux réservés en ligne serpente autour et à l'intérieur du vélodrome, ils sont des dizaines à patienter en plein soleil sur des chaises en plastique.
Bonjour, est-ce que vous voulez de l'eau ?
C'est entre 50 et 100 rendez-vous par jour.
Bonjour, est-ce que vous voulez de l'eau ?
Quand on arrive ici, on nous parle, donc on a pendant des heures là, et à chaque fois on demande d'attendre, on attend quoi ?
Ces 3 dames vont enfin recevoir leur première dose.
Bah 7h15, hein, j'étais déjà là. Hein.
Ma soeur et notre neveu, de 12 ans, il n'a même pas mangé ni rien.
C'est quand même abusé, je trouve. Hein.
Pour atteindre l'objectif de 400 piqûres à l'heure, les médecins et les infirmières accueillent de nouveaux vaccinateurs.
Des gynécologues obstétriciens, des échographistes santé natale,
des ostéopathes, des kinés et des vétérinaires.
Pascal est pharmacien.
On s'entraîne quand même sur des modèles.
Sur des mannequins, non ?
Voilà, sur des mannequins, sur des faux bras, etc. Donc on se fait un peu son expérience là-dessus. Et comme par hasard, là, on se trouve dans un rush aussi, où il y a beaucoup de gens qui sont à nouveau mobilisés pour le vaccin.
Et si on veut profiter d'aller dehors, on n'a pas le choix.
On m'a forcé le travail, m'a forcé à venir, madame. Je suis cuisinier.
Et là, c'est votre patron qui vous a mis devant le fait accompli ?
Il m'a dit, si je viens pas, je te vire.
On va commencer par
Dehors, des automobilistes cherchent à se garer. Certaines familles sont venues se faire vacciner avant de prendre l'autoroute A13 direction la Normandie. Coffre à bagages sur le toit et vélo accroché à l'arrière des véhicules.
Voilà, objectif 400 piqûres par heure. Évidemment, la vaccination s'accélère et dans le même temps, l'épidémie gagne du terrain. 15 000 nouveaux cas de Covid détectés hier. Le taux de positivité a doublé en une semaine. Il atteint 4,2%. Le trafic est quasi normal entre Paris et l'Ouest ce matin. La SNCF l'annonce et rassure au lendemain de la pagaille dans les trains. 70 TGV fortement retardés ou tout simplement annulés hier après un accident de chantier à Massy-Palaiseau. Un agent de maintenance est mort dans un éboulement. Les recherches pour trouver son corps continuent. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, annonce une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances du drame.
Le ministre de l'Intérieur attendu à Saint-Étienne-du-Rouvray ce matin.
Gérald Darmanin doit assister à la cérémonie d'hommage au père Hamel, prêtre assassiné il y a 5 ans lors d'un attentat islamiste dans son église située près de Rouen. Un traumatisme encore profond dans cette ville calme, autrefois sans histoire. 5 ans après, les fidèles du père Jacques Hamel ressentent toujours une vive douleur. Théo Baucher en a rencontré à Saint-Étienne-du-Rouvray.
À Saint-Étienne-du-Rouvray, le portrait du père Hamel est affiché dans les 2 églises de la commune. Sylvie est animatrice à la paroisse et forcément, elle pense à lui tous les jours.
Il nous manque ce chef, ce leader, celui qui nous boostait, qui nous bousculait, qui nous faisait avancer. Quand j'anime en bas, je regarde le tableau du père Jacques et je lui fais des clins d'œil. Voilà, t'es là, t'es avec nous, ne nous lâche pas.
Pour elle, quelque chose s'est brisé il y a 5 ans dans la paroisse qui a mis du temps à cicatriser.
On avait besoin de paix et finalement, il a fallu repartir tout de suite avec plein de gens autour de nous qui nous posaient plein de questions et on n'avait même pas le temps de respirer. On commence maintenant, oui, à se réconcilier avec tout ça.
Alors loin des commémorations publiques qui leur demandent beaucoup d'efforts, les paroissiens cherchent à entretenir le souvenir du père Hamel entre eux, réunis autour du père Gauthier, administrateur de la paroisse.
Je pense que tout le monde a reconnu que c'est un homme simple, un homme qui ne se faisait pas voir, mais qui était présent.
Et le plus important est de faire vivre ses enseignements pour Gilberte.
On garde la foi dans l'héritage du père Hamel, la force du vivre ensemble surtout, et le pardon.
Des paroissiens qui envisagent de se regrouper en une association des amis du père Hamel pour perpétuer sa mémoire.
Reportage de Théo Baucher, France Bleu Normandie. À l'étranger, en pleine crise sociale, économique et sanitaire, Kais Saied, le président tunisien, gèle les pouvoirs du Parlement pour 30 jours et limoge le Premier ministre. Décision prise après une journée de manifestation hier, la première force politique du Parlement, le parti Ennahda, dénonce un coup d'État.
Pendant ce temps, une journée historique au Canada. La toute première gouverneure générale autochtone entre en fonction.
Elle s'appelle Mary Simon, elle est issue de la communauté Inuit et va donc devenir gouverneure générale du Canada, rôle symbolique visant à représenter la reine d'Angleterre. La nomination par le Premier ministre Justin Trudeau est un symbole fort, un symbole de réconciliation. Le Canada est secoué par la découverte récente de tombes près d'anciens pensionnats réservés aux peuples autochtones du temps où ils étaient scolarisés de force. À Québec, le récit de Pascal Garicola.
Les premiers mots de Mary Simon lors de sa présentation officielle auprès du Premier ministre Justin Trudeau ont été dans sa langue natale, l'Inuktitut. Un pied de nez aux autorités canadiennes qui ont longtemps lutté contre les langues autochtones. En la nommant au poste de représentante de la reine, le chef du gouvernement tend la main aux Premières Nations et aux Inuits. D'autant plus que cette septuagénaire, Mary Simon, a mené une carrière remarquable pour faire reconnaître les droits de son peuple. Le philosophe Jérôme Gosselin-Tapp se spécialise dans l'étude des relations entre Québécois et autochtones.
C'est une des mesures qui font partie d'un arsenal de mesures qui vont contribuer à la réconciliation. La nomination d'une gouverneure générale est aussi une occasion de débattre en tant que pays sur la manière dont on conçoit l'État canadien. Et ça, mais déjà là, ça a eu un effet thérapeutique sur la société canadienne.
L'arrivée de Mary Simon au poste de gouverneur général passe mal cependant chez les francophones. L'organisme chargé de veiller sur le bilinguisme canadien a déjà reçu 630 plaintes car elle ne parle pas français. À Québec, Pascal Guéricola pour France Inter.
Retour en France, une exposition à découvrir à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Les Berruriers Noirs, célèbre groupe punk des 80s, exposent une partie de leurs archives personnelles. Cyril Ardo, les équipes de la BNF ont sollicité les Berrus et Fanfan et Masto, deux membres du groupe, ont accepté de donner des enregistrements mais aussi des objets en tout genre.
Sur plusieurs mètres s'empilent des dizaines de cartons et de malles. Et à l'intérieur, de véritables trésors.
Les brouillons des textes de chansons, Vive le feu par exemple,
Raya. Une Raya de Bambin,
Livre flamme,
L'Orlando.
Un peu pas de mouche quand même.
Hein. Oui.
Des textes, des costumes, des affiches, des milliers de photos, mais aussi des éléments beaucoup plus surprenants. Benoît Caimaille est en charge de la musique à la BNF.
Des articles de journaux, de revues et autres sur le mouvement carcéral. Donc on retrouve tout ce qui a nourri cet univers des Berrus.
Ces éléments intéressent des chercheurs dans des domaines très variés, parfois sans aucun lien avec la musique. Des collections de magazines d'extrême gauche et d'extrême droite seront par exemple étudiées par des spécialistes de la politique. Ce don dépasse en fait la simple histoire du groupe. Il raconte une époque, un mouvement, même si on peut y voir une forme d'ironie à ce que des témoignages d'une contre-culture punk, anarchiste, anti-système se retrouvent archivés à la très sérieuse BNF.
À partir du moment où on a marqué l'histoire culturelle de son pays, d'une manière ou d'une autre, elle nous échappe un peu. On a un devoir de le léguer aux générations futures.
Et la BNF souhaite à présent diversifier ses fonds avec, par exemple, des collections autour du hip-hop ou de la musique électronique.
Orange mécanique, à l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris les devants, il y a eu du sang.
Cyril Ardo, un mot des Jeux Olympiques avec ce nom dans l'actualité, Nomiji Nishiya, la toute première championne olympique de skate, vous savez, la nouvelle discipline. Donc c'est étonnant, elle a seulement 13 ans.
Merci voilà. Raphaël Delvolvé, et je vous souhaite une excellente journée.
À vous aussi.
À suivre, l'édito politique.